Femmes et médias, les rencontres de l'égalité.
Le paysage médiatique en période de backlash.
Julia Foyce,
Benoît Bouscarel.
À l'occasion de cette session plénière Droits des femmes, médias et démocratie, nous allons faire un tour d'horizon du paysage médiatique dans le contexte réactionnaire qu'on connaît aujourd'hui en France comme dans le monde. Avec nos invités, Benoît, je vous laisse nous les présenter.
Dans un moment, Julia, où la liberté de la presse est invoquée pour complètement annuler la liberté de la presse, pour la saborder, on va essayer d'y voir clair avec trois invités. Bonjour, Dominique Pradallier, on règle votre micro, mais vous allez pouvoir... prendre la parole. Vous êtes journaliste et vous êtes présidente de la Fédération internationale des journalistes. Très difficile, évidemment, de faire un tour du monde des atteintes à la liberté de la presse, de faire une photographie comme ça complète, précise, facilement, de ce paysage médiatique mondial dans un contexte de backlash, dans un contexte peut-être d'une internationale réactionnaire qui est en train de se mettre en place. Enfin, je dis peut-être, et je vois Alexis Lévrier déjà qui dit « oui, peut-être c'est ça qui est en train de se passer ». Mais quand même, Dominique Pradallier, si vous deviez nous donner peut-être un portrait, de brosser le portrait d'une journaliste peut-être, ou de deux ou de trois journalistes, de quelques journalistes qui sont en pointe dans les combats contre ce backlash qui est en route, vous prendriez quels exemples ?
Alors, ma jeune consoeur Saké, Nora m'a dit qu'elle était là. J'en trouve beaucoup. Mais ce qui me frappe, c'est que je suis d'une génération qui a conquis des droits. Difficilement, on les a conquis. Et puis la génération qui nous a suivis a considéré que c'était comme la télé, ça existait. Il n'y avait pas besoin de les défendre. Et c'est bien pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est qu'il a fallu deux générations pour que les jeunes femmes, et bravo et merci à elles, se lèvent en disant « ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Depuis le 21e siècle, nous sommes dans l'illusion de l'égalité. Nous sommes dans l'illusion de l'égalité. On nous le fait sentir assez. Et comme j'ai un vécu professionnel qui était assez long, je suis passée aussi par toutes les strates. J'étais rédactrice en chef très tôt, dans le service public, par choix. J'étais aussi militante syndicale. Alors vous pensez, pour ces messieurs, une femme. Rédactrice en chef, militante syndicale, je me suis quand même fait 5 placards dans ma vie professionnelle. Je veux dire, c'est pour ça que je comprends très bien maintenant les femmes qui se lèvent en disant « ça suffit, c'est assez, il faut vraiment les vrais droits ». Et la Fédération internationale des journalistes, que j'ai l'honneur de présider, je suis la deuxième présidente en 100 ans, a organisé depuis le début du 21e siècle et même avant une commission du genre extrêmement active. Et nous, on fait tout à base de formation dans tous les pays. On fait tout à base de formation. On a fait des formations en Afrique, on a fait des formations en Europe, on a fait des formations absolument partout. Parce que pour nous, et le niveau de prise de conscience va de « ah oui, on va le faire » jusque « il faut changer toute la société ». Et vous avez parmi les femmes que nous rencontrons, et les hommes, bien sûr, ces différents niveaux de réflexion. Et de plus en plus souvent, la majorité va jusqu'à dire « faut vraiment transformer la société totalement, où que ce soit ». Et ce n'est pas Monsieur Trump et ses amis qui sont en train de montrer le visage le plus hideux du machisme, revanchard, féroce, brutal, vulgaire, moche, quoi. C'est pas eux qui nous font changer d'avis. Et pourtant, ils et elles, il y a des elles là-dedans, parce que je parle de l'extrême droite, vous m'avez comprise, ils et elles se lèvent un peu partout. Maintenant, vous l'avez dit dès le départ, Benoît, la santé d'un pays se voit à deux points extrêmement importants, la liberté de la presse et la situation des femmes. Nous en sommes là.
Merci pour ça, pour ce point. Et bonjour Anne Bocandé.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous êtes responsable éditorial de Reporters sans frontières. Dans votre dernier état de la liberté de la presse, qui a été publié il y a quelques mois,
en mai.
Avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, on a un état des lieux. Est-ce que cet état des lieux est complètement bouleversé depuis le mois de janvier par ce qui s'est passé aux États-Unis?
Disons qu'en effet, on a vu les prémices quand même des conclusions qu'on peut tirer aujourd'hui de forces réactionnaires qui sont au pouvoir, puisque dans notre classement mondial pour la liberté de la presse, donc qu'on publie tous les 3 mai, pour la première fois, on a vu, on le mesure avec différents scores sur la situation de la liberté de la presse, donc en fonction de la situation économique, la situation légale, la situation politique, et donc sur ces 5 critères, le critère qui a le plus baissé, c'est le critère politique pour la première fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, l'année dernière, on a pu observer à quel point les forces politiques n'étaient plus des forces garantes de la liberté de la presse, là où c'est ce qu'on attend d'elles, mais bien aussi des forces attaquantes. Et on l'a vu dans des régimes autoritaires, bien entendu, c'est là où on attend souvent qu'on parle de cela, mais pas seulement. En fait, dans les démocraties aussi, on a vu aujourd'hui des forces politiques qui ne protègent plus, qui vont même contre, et là on voit tous les débats aujourd'hui qui mêlent liberté d'expression et liberté de la presse en confondant les termes. Mai 2024, quand on a sorti ce rapport-là, on a déjà vu les prémices. Il y avait déjà Javier Milei qui était au pouvoir. On avait déjà Giorgia Meloni qui arrivait avec ses attaques contre les médias. Et puis, ce que nous avons pu aussi constater, c'est que face à cela, le manque aussi de volonté de pouvoir contrer. On parle aussi notamment des régulations. On a beaucoup parlé, j'ai entendu, le cyberharcèlement dont sont victimes les femmes journalistes. Comment aujourd'hui les forces démocratiques aussi imposent des régulations aux plateformes notamment. Donc ce n'est pas nouveau, mais voilà, il faut y opposer quelque chose.
On constate que les femmes journalistes sont plus visées peut-être par des mesures de rétorsion à travers le monde.
Alors, nous avons sorti, donc vous allez découvrir dans quelques instants, vous l'avez peut-être déjà découvert, l'exposition sur le journalisme à l'ère MeToo. On avait déjà sorti 2 rapports dans les 10 dernières années. Donc, il est difficile d'identifier qu'il y a plus de violences, mais en tout cas, elles n'ont pas diminué. Et on a pu voir, parce que nous, on était très intéressés dans le contexte, justement, de ces régressions en 2024, de se dire, 7 ans après, où on en est de MeToo dans le journalisme. Puisqu'on était assez démoralisés aussi, quand même, d'un constat, se dire, mais quel a été l'impact véritablement à l'international, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et heureusement, on a pu constater qu'en fait, il y a des forces créatives et il y a des choses qui ont véritablement bougé. On en reparlera tout à l'heure, il y a un avant et un après MeToo, selon nous, dans le journalisme. Mais en effet, le backlash dont on parle, et c'est Yannick Bredoux qui en parlait aussi dans le rapport, ça va avec la visibilisation aussi.
Ouais. Il n'est pas certain, cela dit, on va en reparler, que la représentation des femmes soit gagnante en ce moment, hein, mais on y reviendra. J'accueille d'abord notre invité, Alexis Desvrier. Bonjour et merci d'être avec nous, historien. On avait envie d'avoir votre point de vue aussi pour tracer des perspectives historiques et que vous nous disiez peut-être, Alexis Desvrier, si on a déjà vécu une période telle que celle qu'on est en train de voir advenir.
Ce qui est inquiétant, c'est que c'est international, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène massif dans les démocraties européennes, mais maintenant également aux États-Unis, et avec un peu les mêmes ingrédients, c'est-à-dire des empires médiatiques qui se construisent en lien étroit avec des projets politiques qui sont transmédiatiques, c'est-à-dire qui s'appuient sur les médias audiovisuels, qui s'appuient sur la presse écrite, qui s'appuient sur l'édition, c'est plus sur la communication, sur la publicité, et aussi avec Musk, on le voit bien, sur les réseaux sociaux. Et donc, ça leur donne une puissance de frappe qui est sidérante. Et ils assument assez clairement un projet politique. C'est le cas de Musk en ce moment. C'est le cas traditionnellement de Murdoch, même s'il reste caché. Mais actuellement, il serait presque en retrait. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui va finalement nous sauver. Ce serait un sacré paradoxe. Mais
n'allons pas trop vite, Alexis.
Oui. Non, mais on essaye d'avoir des lueurs d'espoir. En tout cas, il y a des mots très durs dans le Wall Street Journal, par exemple, des gens qui appartiennent à Murdoch, et même dans le New York Post, même des tabloïdes,
à l'égard de ce qui est le dictateur dans l'histoire. Hein, avec,
pardon ?
Il est en train de faire des unes pour dire c'est Poutine le dictateur.
Oui, c'est ça. Et essayer d'éviter cette réorientation de la politique américaine sur un axe poutiniste, quoi, en tournant le dos aux vieilles alliances. C'est quelqu'un qui est présent à l'échelle mondiale, Murdoch, et qui, je pense, n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait cet éloignement entre l'Europe et les États-Unis. Donc il y a aussi ça, il y a la cohérence de son groupe. Nous, on a une situation qui, à l'échelle française, rappelle un peu, avec d'autres armes, d'autres outils, ce qu'on a pu vivre entre l'affaire Dreyfus et la collaboration. Je pense que c'est un moment de notre histoire, 5 à 6 décennies, où l'extrême droite a dominé les médias. Elle n'était pas seule. Il y a la preuve, on a tous en tête la une de l'Aurore du 13 janvier 1898. Mais enfin, elle était extrêmement puissante et elle a modelé le débat public dans des périodes aussi bien de la Belle Époque que de l'entre-deux-guerres et évidemment de la collaboration. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a la mort de Drieu-La Rochelle, il y a la mort de Brasillach, et puis il y a la délégitimation de toute cette extrême droite-là. Ce sont des gens qui passent dans l'ombre, qui disparaissent, qui écrivent sous pseudonyme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, l'extrême droite médiatique. Ça veut dire qu'elle n'est plus mainstream. Des journaux comme Minute ont pu tirer à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Mais, c'est ce que disaient des proches dans les années 80, on le lisait avec la nausée et les mains sales. Donc c'était une situation un peu étrange, où l'extrême droite continuait en fait à peser, à exister en tout cas, mais on la tenait un peu à l'écart. Et pour moi, il y a un moment marquant qui est avant l'arrivée du groupe Bolloré, qui est en 2012, le choix d'Yves de Kerdrel, qui n'est pas du tout un homme d'extrême droite par ailleurs, qui arrive à Valeurs Actuelles et qui choisit d'en faire un journal d'extrême droite. Et d'une manière très spectaculaire, avec des unes qui vont renouer avec l'imaginaire de la Belle Époque. Simplement, c'est plus le même ennemi de l'intérieur, plus personne ne peut avouer son antisémitisme aujourd'hui. Donc on désigne un autre bouc émissaire qui va être les musulmans, les étrangers de manière générale, les Roms, un corps étranger à l'intérieur de la nation dont la nation doit se débarrasser pour retrouver sa pureté originelle. Voilà. C'est cette mécanique-là, et c'est pas un homme d'extrême droite qui l'a voulu. Et c'est lui qui lance Geoffroy Lejeune, qui lance Charlotte Dornelas, et tout le talent de Bolloré après, quand il conquiert Canal+, qu'il transforme une télé en CNews et qu'il donne ce rôle très spécifique à Cyril Hanouna, ça va être d'agglomérer cette extrême droite-là. Et donc des titres qui seraient restés assez marginaux, qui ont toujours existé, L'Incorrect, Causeur, Boulevard Voltaire, c'est des titres qui ont toujours existé en réalité, mais qui vont avoir une exposition médiatique immense parce que Bolloré l'a voulu. Aujourd'hui, on a un deuxième empire d'extrême droite qui tente de se construire, c'est celui de Pierre-Édouard Sterrin, mais je crois qu'il est beaucoup moins habile que Bolloré, il parle trop. Et surtout, on est instruit par l'expérience. La presse classique a fait son travail, l'Humanité, Le Monde, a révélé le projet Périclès, et ce projet qui est clairement un projet de nature politique qui vise à conquérir le pouvoir en utilisant les médias. Et il a échoué pour l'instant, aussi bien à Marianne que au sein du groupe Baïa. Pour notre question d'aujourd'hui, la question des minorités, la question des violences sexuelles, le groupe Baïa a fait tout un travail sur la pédophilie dans l'Église, sur son propre passé, d'abord qu'un passé anti-Dreyfusard, aussi bien à la croix qu'au pèlerin. Ils disent plus jamais ça. On veut pas renouer avec ça. Et on veut pas faire pour les musulmans ce qui a autrefois été fait pour les juifs. Et l'arrivée d'Alban de Rostu, qui est en fait l'ex-bras droit de Sterrin, aurait signifié de renouer avec cette période-là. Et ils ont pas voulu. Ils se sont battus avec beaucoup de courage, je trouve, et sans le soutien des politiques. Ce qui est très inquiétant dans cette période aujourd'hui, pourtant l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir, c'est que le pouvoir politique actuel ne se donne pas les moyens de défendre les rédactions. Ouais. Il y aurait un moyen simple qu'on appelle le droit d'agrément, qui avait été proposé, en plus il y a une proposition de loi transpartisane après la reprise du JDD. Ça permettrait en fait à une rédaction d'empêcher la nomination d'un directeur de la rédaction s'il y a, mettons, 2/3 de la rédaction qui s'oppose. Et ça, il y avait une proposition transpartisane, gauche, centre-droit, et c'était autour de Sophie Taillé-Polien, effectivement, mais avec des macronistes, des gens d'Édouard Philippe. Bon. Et les EGI, les États généraux de l'information, dans les commissions, ont proposé le droit d'agrément, mais pour des raisons opaques, dans la restitution finale des travaux. Enfin, c'est pas opaque, d'ailleurs, parce qu'ils disent c'est pour ne pas heurter la liberté de l'actionnaire. Bon, donc, au moins, les choses sont dites. On a finalement renoncé au droit d'agrément. Ça veut dire que personne n'a défendu Bayard, personne n'a défendu Marianne. Ce sont des rédactions qui sont battues toutes seules et le pouvoir politique n'est pas là. Il ne fait même plus appliquer les lois. Là, ce qui se passe avec C8, c'est l'application de la loi de 1986 qui a été votée par la droite. C'est la loi Léotard.
C'est la loi Léotard.
Et elle est contestée aujourd'hui par la ministre de la Culture, par Laurent Wauquiez, par Bruno Retailleau, qui sont de cette famille politique-là. C'est assez sidérant.
On va revenir là-dessus, Alexis Desbrieux. On parlera aussi de loi sur la qualité de l'information.
Pour poursuivre cet état des lieux sur la question de la représentation des femmes dans les médias, non seulement elle ne stagne pas, mais elle régresse en France aussi. C'est ce qu'indique le GMPP, le Global Media Monitoring Project, ce qui pose de nombreux problèmes en cascade, évidemment. Alors, pour éclairer nos débats, on a demandé à Marlène Coulon-Gully, chercheuse en communication politique à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, d'analyser une situation qui est d'autant plus pernicieuse qu'elle dépend désormais des algorithmes de grands groupes très puissants.
Les technologies de pouvoir se caractérisent par leur inertie, leur résistance au changement. Il n'y a pas de progrès. Et la dernière étude du GMMP montre non seulement qu'on ne fait pas mieux dans le pourcentage de représentation des femmes, mais qu'on régresse. Il n'y a pas de progrès linéaire, l'évolution est extrêmement erratique, mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que sans volonté politique, sans prise de conscience, on n'arrivera pas à faire évoluer les autres. Et il faudra beaucoup plus que des bonnes paroles pour réussir à imposer cette juste représentation qui me paraît vraiment être au fondement d'un fonctionnement démocratique. Comment imaginer qu'on puisse avoir une démocratie qui fonctionne quand les systèmes de représentation sont grippés ou à ce point biaisés ? Je voudrais quand même rappeler 3 points concernant les médias. Premier point, les médias sont constructivistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne retranscrivent pas fidèlement le monde qui existerait en dehors d'eux, ils l'interprètent. Parole d'un philosophe remarquable, le chat de Gueluc, qui nous dit que quand les gens lisent le journal, ils croient prendre ce qui se passe dans le monde. En réalité, ils n'apprennent que ce qui se passe dans le journal. Deuxième point, les médias sont hyper réalistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils minorent les groupes socialement faibles, dont les femmes, les personnes racisées, etc. Et ils majorent les groupes socialement forts, dont les hommes, les personnes blanches, etc. etc. Et troisième point, et c'est probablement le plus important quand on pense à la responsabilité des médias, les médias sont performatifs. Ça veut dire qu'ils contribuent à la construction de notre réalité. Les médias participent du processus de socialisation des individus, ce que résume très bien la formule de l'actrice Gina Davis, qui est engagée dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle dit « If she can see it, she can be it ». Si elle la voit, elle s'y voit. Et priver les femmes faute d'une juste représentation de modèle, eh bien c'est d'une certaine façon amputer leur avenir.
Marlène Coulon-Gulli au micro de Pauline Ferrari-Berthelot et de Judith Hazan.
Ça pourrait être désespérant, ce constat pourrait être un peu dramatique, Dominique Pradalier, mais je vous sens combative plus qu'autre chose. Je vous ai vu réagir à ce que disait Marlène Coulon-Gulli.
C'est très intéressant parce que elle décrit exactement, sans les mots que moi j'utiliserais, mais chacun a ses mots, les rédactions sont maintenant formatées. Il y a quelques années, Monsieur Ruffin avait écrit les petits soldats du journalisme en montrant que les écoles de journalisme formataient. Alors, c'était des individus. Maintenant, ce sont des rédactions qui sont formatées avec des hiérarchies assez incompétentes en matière de déontologie, mais très compétentes en matière de surtout pas de vagues. Surtout pas de vagues. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire des vagues ? Quelque chose qui passerait dans le dissensus. Il faut un consensus mou général. Et comme l'on parlait tout à l'heure de l'objectivité qui ne sert qu'à la subjectivité des puissants, le consensus mou sert évidemment aux puissants qui, je vous le rappelle, possèdent les rédactions, possèdent, puisque les milliardaires possèdent les médias. Donc, là-dedans, dans ces rédactions-là, il y a forcément ce qu'on appelle des francs-tireurs. Et là, je reviens à mon amour pour les mots. Tout à l'heure, Madame Belhadad en parlait très bien, et d'autres aussi. Depuis quelques années, on utilise un vocabulaire militaire. Vous êtes une cible. C'est votre arme préférée. C'est etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces vocabulaires militaires de mec ? Moi, je dis, on est concerné. On a des possibilités, des atouts à faire jouer. Mais tout ceci nous ramène à un univers qui, en matière de backlash, c'est-à-dire de retour de bâton, fait que, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure quand je citais Trump, je parlais de revanchard, qui non seulement veut reconquérir un pouvoir que les machistes estiment avoir plus ou moins perdu, mais veulent surtout prendre leur revanche. Ça suffit, les bonnes femmes. Moi, j'ai vécu ça. Quand on, au début des acquis, les messieurs venaient vers nous en nous disant, excuse-moi, cher ami Lévrier, en disant, bah oui, bien sûr, etc. Quand il s'est trouvé que nous étions égales, eh ben, à leurs yeux, nous étions des rivales. C'était pas l'égalité, on était des rivales. Et la lutte au couteau a recommencé dans le dos, immédiatement. Et les droits des femmes, simplement droit à l'égalité, c'est comme tous les autres droits. Si on ne les défend pas, jour après jour, il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petites allusions, il n'y a pas de petits mots de travers. Tout doit être normalement vécu entre hommes et femmes dans une société organisée.
Merci de le rappeler. Mais il y a des combats, Dominique Pradalier. Et Anne Bocandé, j'ai envie de vous demander de nous donner un peu d'espoir. Là, on arrive à la conclusion de cette émission. Il y a quand même énormément d'initiatives qui se font jour et qui travaillent sur les questions d'égalité.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'à Reporters sans frontières, on est assez convaincus qu'il y a des moyens d'action. Je pense qu'Alexis Lévrier en a parlé. Il y a du fait politique. On peut, et quand le lien avec la démocratie, là, il est fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Quand on parle de solutions, l'Union européenne, il y a quelques mois, a adopté une directive sur le cyberharcèlement contre les journalistes femmes, en faisant en tout cas du cyberharcèlement contre les journalistes femmes une circonstance aggravante et en incitant les États à appliquer des réponses pénales sur ce genre de violence. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Concrètement, et elles viennent en partie du politique. Ensuite, il y a en effet, pareil sur la question de la défense du pluralisme à l'antenne, de l'indépendance, de la fiabilité, ce sont des combats qui restent à mener, mais ils sont concrets. Ils nous appartiennent aussi d'en prendre part. Et puis ensuite, sur les notes d'espoir, en effet, nous on l'a vu quand on a travaillé sur le rapport MeToo, non seulement il y a des médias qui existent depuis des décennies sur la question de la défense des droits des femmes, sur les violences de genre, sur les violences sexistes et sexuelles. On a retrouvé évidemment des médias dès les années 60 au Sénégal, des médias en Belgique, des médias au Brésil. Donc il faut aussi aller regarder du côté de ces histoires-là, dans lesquelles on s'inscrit aussi avec aujourd'hui toute une nouvelle génération de médias et encore une fois à l'international. Parce que nous, c'était important aussi de travailler à l'international parce qu'il y a eu beaucoup, et même en interne, on a beaucoup discuté, est-ce que c'est un mouvement occidental ou pas, de quoi s'agit-il à l'international. Et il faut aller regarder de plus près, puisqu'il y a nos consoeurs et nos confrères aussi s'organisent pour visibiliser ces sujets-là et bouleversent et font bouger les lignes. On l'a vu au Nigeria avec une journaliste aussi, Kiki Mordi, que vous allez retrouver dans l'exposition, qui a fait une enquête incroyable sur les violences des violences sexistes et sexuelles dans une université qui a fait bouger la législation au Nigeria. C'est concret, quand on parlait du journalisme performatif, c'est très concret. Alors elle en paye le prix aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est important de aussi visibiliser son histoire, lui rendre hommage, puisqu'elle en paye le prix pour nous avoir informés, pour nous informer sur ces sujets-là. Donc continuons de visibiliser le travail de nos consoeurs, continuons d'être à leur côté aussi. Il y a des médias, il y a des journalistes qui font ce travail-là, il faut les soutenir, par aussi des financements, puisque nous on appelle aussi dans nos recommandations à du soutien aussi concrètement sur le journalisme d'investigation, sur ces sujets-là, sur différentes bourses, sur voilà, il y a des moyens d'agir.
La convention de l'OIT 190 contre les violences et le harcèlement doit être connue, expérimentée, défendue et utilisée par toutes et tous. Je vous trouverai certainement très facilement. Il faut savoir dire non, il faut savoir s'organiser, et je pense que réunion dont je remercie le Conseil économique et social d'être à l'origine doit déboucher sur quelque chose, doit déboucher sur des actes, peut-être une coordination légère de travail. L'idée du baromètre qui a été tout à l'heure instaurée ici.
Le verbomètre.
Nous, la Fédération internationale, dont je vous rappelle qu'elle représente à peu près 600 000 journalistes dans le monde, on a fait tout un schéma de rewriting the story, c'est-à-dire réécrire l'histoire. À chaque journaliste, on lui demande, vous poseriez la même question à un homme, une femme? Oui, non, etc. Allez voir, ce sont des petits clips très, très, très simples. Et puis, pour aller dans le sens d'une des intervenantes précédentes aussi, je me demande si on ne pourrait pas avoir des actions de groupe contre le harcèlement en ligne. Parce que ce serait probablement une des façons de pouvoir désisoler nos consoeurs qui sont massivement victimes, aussi bien en France qu'ailleurs, de ces difficultés, qui le vivent comme vous pensez, très mal, parce qu'on est chez soi et tout d'un coup, on a l'impression que quelqu'un vient de rentrer avec un pistolet contre vous. C'est affreux, je veux dire. Il faut savoir ce que c'est d'être poursuivi. Et peut-être des actions de groupe pourraient nous aider. Et puis enfin, encore une fois, la formation des hommes et des femmes au bon vocabulaire des journalistes, au juste vocabulaire. C'est-à-dire, reprenez vos mots, déjà tous les élèves de journalistes. Ne prenez pas le mot de l'une ou des parties pour les femmes que pour autre chose. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que le journaliste doit être à l'écart, c'est un observateur, une observatrice. Mais en plus parce qu'il ne doit pas être soupçonnable d'un parti quel qu'il soit. Et puis troisième chose, en cherchant le juste mot, ça l'oblige à réfléchir. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer.
Merci. Merci beaucoup, Dominique Pradalier. Un mot, Alexis Lévrier, l'histoire n'est pas forcément condamnée à se répéter. Je ne sais pas comment vous pouvez nous rassurer là-dessus.
J'espère qu'elle ne va pas se répéter. On va essayer de ne pas être pessimiste. Il y a des initiatives positives. Moi, j'admire beaucoup le travail de Reporters sans frontières. J'ai une pensée pour Christophe Deloire aujourd'hui, comme souvent, parce qu'il a porté des combats à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale. Et si on a pu révoquer la fréquence de C8 ces jours-ci, ce qui a valu à RSF des attaques du groupe Bolloré par l'intermédiaire d'une agence d'agitprop qui s'appelle Progressif Média. Je pense que Christophe est mort sans savoir qu'il était que les milliers de comptes qu'il attaquait tous les jours en fait venaient de là. Et donc c'est un combat tout à fait méritoire et qui a été couronné de succès. C'est pas une censure, c'est l'application de la loi de 1986. Et donc on le doit à RSF qui fait vraiment un boulot formidable. On a parlé des écoles de journalisme un petit peu, des formations, et c'est vrai qu'elles sont toujours contestables. C'est un travail à améliorer. Mais moi, je pense du bien de ce que font les écoles reconnues. Il y a 14 écoles reconnues, il y en aura bientôt une 15e. Elles sont très sérieuses, les prix sont modiques pour les boursiers. Parfois, c'est des prix, quand c'est des formations universitaires, il y en a beaucoup qui sont universitaires, c'est le prix d'une inscription à la fac.
Elles sont d'autant plus importantes, ces écoles, qu'elles sont aussi attaquées maintenant. Enfin,
oui, et justement,
l'extrême droite commence aussi à s'intéresser à la formation des journalistes.
Exactement, et c'est bien parce que c'est un des domaines qui résistent, parce qu'elles font un travail assez exemplaire, et elles sont très féminisées. Enfin, les étudiants sont largement des étudiantes. Là où Nora Hammadi a raison, c'est-à-dire qu'il y a encore une conquête, c'est la diversité ethnique, religieuse, etc. Là, c'est quand même très blanc encore, de manière très majoritaire. Et le journalisme doit davantage refléter la société dans sa diversité. Et ça, c'est encore un combat à mener. Il y a la chance au concours, il y a la prépa du Bondi Blog à l'ESJ de Lille. Donc il y a des initiatives, mais elles sont encore insuffisantes. Mais là où on doit avoir une inquiétude pour ce qui est de la formation, c'est effectivement que l'extrême droite a parfaitement compris que tout se jouait dans la formation. Et donc elle a lancé une école qui s'appelle l'ILDJ d'abord, Institut libre du journalisme. Donc ça, c'est dans, vraiment, mais c'est pas une école autonome. En fait, elle complète des formations qui existent déjà, mais avec une ligne très offensive sur le plan idéologique. Et la plus ancienne école de journalisme, qui est l'ESJ Paris, on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, ce n'est pas une école reconnue et elle joue beaucoup de la confusion avec l'ESJ Lille. L'ESJ Lille est une excellente école. L'ESJ Paris, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Et donc, elle était très chère. En général, quand vous payez cher dans une école de journalisme, c'est que c'est pas une bonne formation. C'est jamais un bon signe. Et là, j'avais été contacté par des étudiants. Ils découvraient en plein cours d'année, alors qu'ils payent 10 000 euros par an, que, en plus, ils sont rachetés par Bolloré. Alors pas que Bolloré, il y a aussi les autres grands maniers de la presse, et devait y avoir ce terrain, ou en tout cas le banc de Rostu, par l'intermédiaire du groupe Bayard. Et donc, comme la reprise de Bayard a échoué, le groupe Bayard s'est retiré de ce projet, mais Vianney d'Alençon, qui va diriger cette école, il est clairement dans une logique de conquête idéologique, et il propose un deal aux étudiants, en fait. Il y a des étudiants qui ne sont pas du tout marqués à l'extrême droite, mais il leur dit, bon, vous payez très cher votre scolarité, et on sait qu'après, vous avez du mal à trouver du travail. Beaucoup de journalistes veulent vivre à Paris, c'est de plus en plus compliqué. Là, vous allez aller faire des stages à Europe 1, sur CNews, et vous serez embauché dans la foulée. Ouais. Vous ferez des alternances qui déboucheront sur un emploi. Donc c'est une sorte de pacte faustien qu'on propose à ces étudiants. Grosso modo, on vous propose du travail, bien rémunéré, mais vous oubliez les raisons pour lesquelles vous êtes venu au journalisme.
La vigilance doit rester de mise. Merci beaucoup Alexis Lévrier, merci à tous les trois. Merci Dominique Pradalier, Anne Bocandé. Merci.
Merci. Merci à tous les trois.
Et c'est la fin de cette émission, déjà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces 2h30 de direct depuis l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental. Merci aux membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité qui ont pensé et organisé cette journée, à sa présidente notamment, Agathe Hamel, à la réalisation aujourd'hui, on peut l'applaudir. À la réalisation aujourd'hui, c'était Francisque Brémond et Sébastien Morvan de l'Onde Porteuse, Alexandra Texier du CESE, assistée de Thierry Coway et Alexandre Langevin.
On ne citera pas, on ne le peut pas, l'ensemble des radios associatives partenaires de cette journée au CESE, mais on les remercie infiniment. Une quinzaine ont pu diffuser nos débats en direct et au total 68 les diffuseront d'ici le 8 mars.
La participation d'ailleurs, et c'est important, la participation de ces médias indépendants, c'est l'occasion de montrer qu'on a encore en France un paysage médiatique diversifié. On l'a déjà dit, hein, mais je le redis, pluraliste, et qu'il faut le préserver, ce paysage. Au total, il y a 600 radios associatives en France qui fonctionnent, qui font un boulot incroyable et qui sont quand même très inquiètes par les menaces sur l'existence du fonds de soutien à l'expression radiophonique qu'il faut absolument conserver pour préserver cette pluralité et ces radios. Merci pour elle.
Au passage, un grand merci à Besma Saïdi, journaliste à l'Onde Porteuse, qui a coordonné l'opération avec ses 68 radios. Mentionnons également la plateforme de podcast de West France, également partenaire de cette journée, et qui diffusera nos échanges. Merci à toutes, merci à tous.
Merci Julien.
Un grand merci aux membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE qui ont pensé et organisé cette journée et à sa présidente, Agathe Hamel. Les 4 épisodes de Femmes et Médias sont à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Présentation, Julia Foyes et Benoît Bouscarel. À la réalisation, Francisque Brémond et Sébastien Morvan de l'Onde Porteuse et Alexandra Texier du CESE, assistée de Thierry Coway et Alexandre Langevin.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Femmes et médias.
Une production L'Onde Porteuse.